Chapitre 16. Vendredi 11 décembre, le matin. Il n'était même pas 7 heures quand Yona Lina reçut un appel du docteur Daniela Richards. Elle lui expliqua que d'après elle, et même s'il se trouvait encore dans la chambre attenante à la salle d'opération, Joseph était maintenant en état de subir un bref interrogatoire. Au moment de s'installer dans la voiture pour se rendre à l'hôpital, il ressent une douleur sourde dans le coude. Il repense à la veille. La lueur bleue des voitures de police avait balayé la façade de la tour où habitait Sora Brahmadani. L'homme de grande taille, avec la coupe au bol, avait craché du sang et marmonné d'une voix pâteuse quelque chose à propos de sa langue pendant qu'on l'amenait à l'arrière de la voiture de patrouille. Ronnie Alfredson et son collègue Pater Gisk avaient été retrouvés dans l'abri anti-aérien des sous-sols de l'immeuble. Les deux hommes les avaient menacés au couteau et enfermés. Puis, ils avaient conduit la voiture jusqu'à la tour voisine et l'avaient laissée sur le parking visiteur. Yona était retournée à la tour, avait sonné à la porte de Sorab, dit que ses gardes du corps avaient été arrêtés et que la porte de l'appartement serait forcée s'il n'ouvrait pas sur le champ. Sorab l'avait laissé entrer, lui avait demandé de s'installer dans le canapé en cuir bleu, proposé une tisane à la camomille et s'était excusé pour ses amis. C'était un homme pâle, avec une queue de cheval. Il était inquiet et jetait sans arrêt des regards autour de lui. Il s'excusa encore de ce qui s'était passé, mais expliqua qu'il avait eu de gros soucis ces derniers temps. « C'est la raison pour laquelle j'ai engagé des gardes du corps. »« Vous avez eu quel genre de problème ?» demanda Yona en sirotant la tisane brûlante. « Quelqu'un en a après moi. » Sorab se leva et regarda par la fenêtre. « Qui ?» Le dos tourné, Sorab dit qu'il n'avait pas envie d'en parler. Est-ce que je suis obligé de parler? Est-ce que je n'ai pas le droit de garder le silence? Vous avez le droit de garder le silence, reconnut Yona. Sorab haussa les épaules. Dans ce cas, j'aimerais pourtant que vous me parliez, s'aventura Yona. Je peux peut-être vous aider. Avez-vous envisagé cette possibilité? Merci infiniment, dit Sorab toujours face à la fenêtre. Est-ce que c'est le frère d'Evelyn qui...
Non.
Ce n'est pas Joseph Eck qui est venu ici?
Ce n'est pas son frère.
Qui est-ce alors?
Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais ce n'est pas son frère, c'est autre chose.
Une fois ces mots prononcés, après avoir insisté sur le fait que Joseph n'était pas le frère d'Evelyn, Sorab était redevenu nerveux. Il avait parlé de football, de la Ligue allemande, et n'avait plus répondu correctement aux questions. Yona se demandait ce que Joseph avait bien pu dire à Sorab, ce qu'il lui avait fait, comment il avait réussi à l'effrayer, au point qu'il révèle l'endroit où se trouvait Evelyn. Yona s'engage sur le parking et se gare devant la clinique neurologique. Il sort de sa voiture, franchit la grande entrée, emprunte l'ascenseur jusqu'au 5e étage, longe le couloir, salue le policier en faction devant la porte et pénètre dans la chambre de Joseph. Une femme se lève de la chaise près du lit et se présente.
Lisbeth Garlen. Je suis assistante sociale et serai le soutien légal de Joseph durant l'interrogatoire.
Parfait, dit Yona en lui serrant la main.
Elle le regarde avec un air qui lui paraît sympathique.
Est-ce vous qui allez conduire l'interrogatoire? Demande-t-elle avec intérêt.
Oui, pardonnez-moi. Je suis Yona Lina de la Rikskrim. Nous nous sommes parlé au téléphone.
À intervalles réguliers, le drain bulot, la pompe reliée par un tube à la plèvre perforée de Joseph, émettait un glougloutement bruyant. Le drainage restaure la pression négative qui n'existe plus naturellement afin que les poumons fonctionnent pendant le processus de guérison.
Le médecin, dit Lisbeth Garlen, a expliqué que Joseph devait rester complètement immobile en raison des risques de récidive d'hémorragie du foie.
Je n'ai pas l'intention de mettre sa santé en péril.
Yona installe le magnétophone sur la table près du visage de Joseph. Il adresse un regard interrogateur à Lisbeth, qui répond d'un hochement de tête. Il commence alors l'enregistrement, précise que Joseph Eck est interrogé à titre d'information et indique la date, vendredi 11 décembre, 8h15 du matin. Il énumère ensuite les personnes présentes dans la pièce.
« Salut !» dit Yona.
Joseph le fixe avec des yeux lourds.
« Je m'appelle Yona. Je suis inspecteur. »
Joseph ferme les yeux.
« Comment te sens-tu ? »
L'assistante sociale regarde par la fenêtre.
Tu arrives à dormir avec cet appareil qui gargouille ?
Joseph hoche lentement la tête.
Est-ce que tu sais pourquoi je suis là ?
Joseph ouvre les yeux et secoue lentement la tête. Yona attend et observe son visage.
Il y a eu un accident, dit Joseph. Toute ma famille a eu un accident.
Personne ne t'a raconté ce qui s'est passé ?
Peut-être un peu, dit-il faiblement.
Il refuse de voir des psychologues ou des conseillers sociaux, dit Lisbeth Carlin. Yona se dit que la voix de Joseph était tout autre lors de l'hypnose. La voix là soudain fragile, presque inaudible, et trahissant pourtant une constante stupeur.
Je pense que tu sais ce qui s'est passé.
Tu n'es pas obligé de répondre, intervient rapidement Lisbeth Carlin.
Tu as 15 ans, poursuit Yona.
Oui.
Qu'est-ce que tu as fait pour ton anniversaire ?
Je ne m'en souviens pas.
Tu as eu des cadeaux ?
J'ai regardé la télé.
Tu es allé voir Evelyne ?
Demande Yona d'une voix neutre.
Oui.
Dans son appartement ?
Oui.
Elle y était ?
Oui.
Silence.
Non, elle n'y était pas,
se ravise Joseph d'une voix hésitante.
Elle était où alors ?
Au chalet.
C'est un joli chalet ?
Pas vraiment, mais c'est assez sympa.
Elle était contente ?
Qui ?
Evelyne.
Silence.
Tu avais apporté quelque chose ?
Un gâteau.
Un gâteau ? Il était bon ?
Il hoche la tête.
Evelyne l'a trouvé bon ? Poursuit Yona.
La crème de la crème pour elle, dit-il.
Elle t'a donné un cadeau ?
Non.
Mais elle t'a peut-être chanté...
Elle ne voulait pas me donner mon cadeau, dit-il d'une voix blessée.
Elle a dit ça.
Oui, c'est ce qu'elle a dit, répond-il rapidement.
Pourquoi ?
Silence.
Était-elle en colère contre toi ?
Il hoche la tête.
Est-ce qu'elle voulait que tu fasses quelque chose que tu ne pouvais pas faire ?
Continue Yona d'une voix calme.
Non, elle...
Joseph chuchote la suite.
Je n'entends pas, Joseph.
Il continue de chuchoter. Yona se rapproche, tente de distinguer les mots et se penche au-dessus de lui.
Ce salopard !
Lui crie Joseph à l'oreille. Yona recule, contourne le lit, se frotte l'oreille et se force à sourire. Le visage de Joseph est gris comme la cendre.
Je vais retrouver ce putain d'hypnotiseur et lui déchiqueter la gorge. Je vais le pourchasser, lui et son...
L'assistante sociale se précipite vers le lit et tente d'arrêter l'enregistrement.
Joseph, tu as le droit de garder le silence.
Ne vous mêlez pas de ça, interrompt Yona.
Elle le regarde avec un air indigné et dit d'une voix tremblante.
Avant de commencer l'interrogatoire, vous auriez dû l'informer.
Non, vous vous trompez. La loi ne me l'impose pas, dit Yona en élevant la voix. Il a le droit de garder le silence, c'est vrai, mais rien n'exige que je l'en informe.
Excusez-moi alors.
Pas de problème, marmonne Yona avant de s'adresser à Joseph. Pourquoi est-ce que tu es en colère contre l'hypnotiseur ?
Je n'ai pas à répondre à tes questions,
dit Joseph en essayant de montrer du doigt l'assistante sociale.